Alors, on va faire un petit retour en arrière, un petit résumé. Est-ce que vous vous souvenez des quatre pas? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Quatre pas, la prière, quatre P. On va se rafraîchir la mémoire. Pratiquer la, connaître son, l'adorer et le servir avec, par la, de l'Esprit. Les fleuves d'eau vive, l'oasis qui répand la bénédiction. Alors ça, c'est, on est rendu à la puissance. On a pratiqué la louange, la puissance de la louange. Saviez-vous que il y a une puissance dans la louange, que c'est une arme, la louange? Hein? Une arme redoutable. Le diable déteste les enfants de Dieu qui louent le Seigneur. Il déteste ça. Une histoire que je raconte souvent, c'est vous savez, dimanche matin, j'ai plein d'affaires dans la tête à préparer, puis énervé, puis excité, puis et puis à un moment donné, j'avais une douzaine d'œufs dans les mains et j'échappe la douzaine d'œufs à terre. Un dimanche matin, là. C'est terrible. Hein? Et je sacre pas, moi. Hein? Et je n'ai pas sacré. Et là, j'ai eu le réflexe de dire, il m'aura pas. Hein? Il m'aura pas. Et je me suis mis à chanter un cantique, nettoyer tout le dégât en chantant un cantique. Maintenant, est-ce que c'était le diable qui a fait ça? Non, probablement pas. Mais, c'est une occasion. Qu'est-ce qui donne accès au diable? Qu'est-ce qui donne accès au diable? La colère. Hein? Lorsqu'on se fâche et qu'on ne règle pas notre colère comme Dieu veut qu'elle soit réglée, on ouvre la porte au diable et là, il arrive avec ses sacs, puis ses blasphèmes, puis ses... Et puis, si on n'est pas habitué, ben on meurt à l'hameçon, puis on ne sait pas, mais il y a un mauvais esprit qui embarque. Alors, ce qu'on a vu les dernières fois, c'est que lorsqu'on naît de nouveau, on reçoit un nouveau cœur qui aime le Seigneur, un nouveau cœur qui aime la sainteté, un nouveau cœur qui veut servir le Seigneur de tout son cœur, une nouvelle nature, un cœur régénéré, hein? Et on part avec ça. On vient d'accepter le Seigneur, on est tout feu, tout flamme. Et qu'est-ce qui se passe? Prout, prout, prout. On tombe en panne parce que la puissance est pas fournie avec l'automobile. On n'a pas de puissance en nous-mêmes. Hein? Dieu ne nous a pas fait autosuffisants, ni physiquement. On a besoin d'eau, on a besoin d'air pour respirer. On a besoin mentalement ou moralement, on a besoin d'amour, on a besoin de valeur pour vivre. Si on n'a pas ça, on meurt. Et on a besoin spirituellement de la présence de Dieu. Hein? Il y a un grand vide dans le cœur de l'homme. Et ça, c'est la place de Dieu. Et il n'y a personne qui peut prendre cette place-là. Il y a une leçon dans le cours de disciples 101, si on va à IBV peut-être. Cours de disciples 101. C'est quoi la première leçon? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On entre dans la vie chrétienne et ça peut prendre un certain temps avant que on apprenne cette leçon-là. Les disciples ont dû l'apprendre dans la tempête. Ils étaient au bout de leur force, au bout de leur énergie. Et dans cette position-là, qu'est-ce qu'on fait? On crie à Dieu, on crie au Seigneur. On est... Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il apaise la tempête. Il fait une démonstration de sa puissance. Alors oui, on a un beau cœur tout neuf. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est rechargeable. Notre nouveau cœur, il est rechargeable. on peut le recharger. Oui, il peut être vide, il peut, hein, si je cherche la sainteté en moi-même, j'en trouverai pas. Si je cherche la bonté, si je cherche l'amour, pas grand-chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce nouveau cœur-là que j'ai reçu, il est tout équipé pour être rechargé de l'amour de Dieu. Qui est-ce qui a la puissance? Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il ajoute, « Voici, je suis avec vous. » Alors, moi, je pense que si quelqu'un croit ça, là, ça recharge la batterie pas mal. Juste croire ça. Hein? Jésus dit qu'il a tout pouvoir. Est-ce qu'il a le pouvoir sur les démons? Est-ce qu'il a le pouvoir sur la chair? Est-ce qu'il a le pouvoir sur le monde? Nos ennemis? Tout pouvoir. Et il est avec nous. Si on sort d'ici, la main, dans la main de Dieu, dans la main de Jésus, ça va faire une différence. La leçon numéro 2, la première, c'est « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Leçon numéro 2, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Vous allez recevoir une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous allez être mes témoins jusqu'au Québec en 2013. Hein? C'est quelqu'un qui croit ça? On peut tout par celui qui nous fortifie. Que le Saint-Esprit est venu. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un est déchargé, son auto est là, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Oh boy! Un petit filet. Hein? Une petite goutte qui tombe de temps en temps, non? Des fleuves d'eau vive, c'est... Et ça fait quoi, des fleuves d'eau vive? Ça amène la vie. Fleuves d'eau vive dans le désert. Hein? C'est ça l'image. Il y a des fleuves d'eau vive. On vit dans un désert. Hein? Vous allez travailler dans le monde à tous les jours. Hein? Vous côtoyez le désert de plus en plus aride, de plus en plus difficile. À tous les jours, vous êtes dans le désert. Et le Seigneur, il dit que vous êtes ces fleuves d'eau vive. Vous avez ces fleuves d'eau vive. Là où vous travaillez. Vous voir ça. Jésus est avec vous. Saint-Esprit en vous. Les fleuves d'eau vive qui coulent. Et dites-là de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et ça, c'est qui ça? Il y a des croyants ici? Ouais. Wow! Alors, leçon numéro 1. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Des fois, ça prend du temps, comme dans un entonnoir, puis on essaie de se débrouiller de nos propres forces pour sortir du trou. Et la deuxième leçon, c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Regardez les Paul, hein, quand il parle aux Éphésiens, et sa prière, c'est que Dieu illumine les yeux de mon cœur afin que je sache quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Et il ajoute, or à celui qui par la puissance qui agit en toi peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou penses, à lui la gloire dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Et ça, c'est le beau côté. Le côté plus sombre de l'affaire, c'est il y a une réalité que ça fait des années qui est révélée, je pense, aux forteresses. Je vous donne juste un petit paquet je l'ai fait la dernière fois, des gens des chrétiens, des vies chrétiennes bien remplies, je pourrais dire, et longues, qui écrivent sur le petit papier des choses sur lesquelles ils n'ont pas la victoire. Médisance, mensonge, inceste, pensée d'autres hommes, esprit de jugement, de mépris, dépression chronique, pornographie, pensée obscène. Mais voici, ça c'est des chrétiens comme vous et moi. Et c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui a rien sur son papier. Et c'est pas juste des choses contre lesquelles on lutte, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas la victoire. Alors c'est beau le dimanche, on voit, et c'est bien qu'on vienne célébrer le Seigneur ensemble, mais je vous cache pas qu'il y a des gens qui luttent avec des choses terribles, terribles. Des enfants de Dieu, des croyants régénérés, qui ont une nouvelle nature, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont la puissance de Dieu en eux, qui sont encore esclaves d'une passion, d'une convoitise qui est plus forte qu'eux. Probablement qu'ils ont crié à Dieu, Seigneur, et qu'ils crient encore à Dieu, Seigneur, délivre-nous de cette tentation-là ou de cette convoitise-là sur laquelle j'ai pas le contrôle. Seigneur, fais un miracle, délivre-moi. Et après un an, deux ans, 10 ans, on cesse de prier, on cesse de demander parce que ça sert à rien. Il se passe rien. J'ai encore poigné. Avec résigné, j'ai abandonné, j'ai essayé de prier, il n'y a plus rien à faire. J'en ai vu des miracles, j'ai vu des gens délivrés de leur passion. J'ai vu un homme âgé à l'époque, il était dans la soixantaine. Il a fumé toute sa vie depuis qu'il avait peut-être 12 ans qu'il fumait. Il se levait la nuit pour fumer. Il fumait je ne sais pas combien de paquets de cigarettes par jour. Et puis, on a fait comme un appel une fois. Et puis, je me souviendrai toujours, c'était des bancs d'église. Il a pris son paquet de cigarettes, il a mis ça sur le banc de l'église. Et à partir de ce moment-là, il y a eu du dégoût. Un dégoût profond pour la cigarette. De même. Et je pourrais en raconter des histoires de même. Oui, Dieu peut faire ça. Mais pour la plupart des gens, il y a un combat. Et le combat n'est pas inutile. Lequel a le plus de... pas de valeur, mais lequel est le plus fort? Celui qui reçoit une délivrance miraculeuse d'un coup sec, ou le gars... Hein, je connais un diacre, là, ça faisait des années qu'il luttait contre ça. Finalement, il a eu la victoire après 3-4 ans de nicotine. Lequel qui a le plus de mérite? Hein? Il y a quelque chose dans le combat qui est sain, qui est salutaire. Hein? Que Dieu veut qu'on exerce la foi en quelque part. Hein? Dieu veut qu'on exerce la foi. Et que ça... Un endroit où la foi doit exercer, c'est dans la tentation. Hein? C'est là qu'on sépare les hommes, les enfants. Alors, comment expliquer qu'un chrétien régénéré, qui a un nouveau cœur, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a la puissance de Dieu en lui, qui demeure esclave d'une passion, souvent cachée, une convoitise qui est plus forte que lui. Comment on peut expliquer ça? Et où est le problème? Excusez. Quoi qui fait défaut? Et surtout, elle est où la solution? Là, je ne parle pas d'un chrétien qui pêche momentanément ou accidentellement, il tombe. Hein? Il a succombé à une tentation. Cet après-midi, on va fêter Alexis, mon petit-fils, là. Peut-être qu'on va assister à son premier pas Hein? Mais ça convient de fois qu'il tombe? Le problème, c'est pas de tomber. Le problème, c'est pas se relever. Pas réessayer. Pas continuer à... Hein? Le nouveau cœur, il y a ce réflexe-là. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il n'est pas capable. C'est contre sa nature de pécher pour un chrétien. C'est contre notre nouvelle nature. C'est pas ça qu'on veut. Hein? Gratte, là. Enlève la chair, stupide. Qu'est-ce que tu vas trouver dans le fond? T'es un chrétien qui aime pas ça. Pécher. Alors oui, hein? Certainement qu'on peut on peut tomber. Il y a mais c'est pas quelque chose dans lequel pas quelque chose qu'on pratique d'une façon continue, habituelle, régulièrement, sur lequel on n'a pas le contrôle. C'est plus fort que moi. Quelques exemples, je l'ai dit, c'est tough ce matin, là. Vous avez entendu ce qui a été dit? Tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, la loi dit. Mais moi, Jésus, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si on appliquait la règle, là, moi le premier. Hein? Alors, Jésus a mis la barre. Oh, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous entrerez pas dans le royaume de Dieu. La convoitise des yeux. Combien de personnes, des chrétiens, des croyants, sont pognés avec la pornographie? Moi, j'en entends des confessions. Et c'est quoi la solution? Mon frère, t'as un bouton d'élite. Hein? Sur ton clavier d'ordinateur, là, dans ta tête, il y a un bouton qui s'appelle « Delete ». Hein? Puis si tu attends plus que 2-3 secondes avant de « Deleter », qu'est-ce qui se passe? Ben l'image que tu vois là, là, elle va être gravée dans ton cerveau. Puis t'es pogné avec. Puis là, ce que tu vas faire avec, c'est là que ça pêche. C'est là que ça fait la différence. Si tu te mets à imaginez, il paraît que les femmes, c'est plus romantique que sexuel. Hein? Alors, si on se met à imaginer des scénarios d'aventure, de... on commet l'adultère. Et la conséquence de la vie de l'adultère, c'est lapider. C'est ce qu'on mérite. Alors, il y a un bouton d'élite. D'élite. Pas capable. Mensonge du diable. Mensonge du diable. Ça marche, le bouton d'élite. Hein? Puis le plus vite tu vas le faire, le plus vite tu vas avoir la paix. Hein? Fuyez les convoitises qui font la guerre à l'âme. Tu veux-tu passer ta journée dans la guerre? Contre ton âme? Contre ton cœur? Non. Hein? Comment est-ce qu'un chrétien peut faire une recherche avec le mot sexe? Un chrétien qui fait une recherche sexe. S'il n'y a pas un yark en quelque part, là, je doute de ton salut. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas ce cœur nouveau. Qui est contre ça. C'est sûr que ta chair va avoir du plaisir. Hein? mais c'était devenu un accro de ça. Crie au secours, crie à l'aide. Certainement quelqu'un. Et je peux t'aider si tu es pris avec ça. Mais restez avec l'idée qu'il y a un delete. Hein, en français, c'est quoi? Supprimer, hein, c'est bon. Supprimer. Ouais, fermer ici. Jeûner. Jeûner. On jeûne de. Oh, mais c'est long, ça, il me semble. C'est le temps que tu promènes ta souris jusqu'au X. En tout cas, chacun développe sa technique, OK? On va faire ça, gars? Oui, il y en a un, deux. OK. On fait ça, les gars? Hein? Delete. Ça n'a pas sa place là-dedans. Alors, ça prendrait quelque chose pour les femmes aussi. Non, excusez, j'étais pas bien ma langue. J'ai appris qu'il a été dit à nos ancêtres, dans la loi, c'est écrit, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Bien, moi, je vous dis que celui qui se met en colère, se laisse aller à sa colère contre son frère, sera traduit en justice. Celui qui est dit imbécile, niaiseux en québécois, passera devant le tribunal. Celui qui le traite de fou est bon pour. Y a-t-il mis la barre haute? Hein? Il ne dit pas qu'il serait mieux de se couper la langue, mais je pense que ça sera une bonne chose. Hein? Le langage stupide, niaiseux, mérite le feu de l'enfer. Comme un meurtre. On peut tuer avec notre langue. C'est quoi la solution? Délit. Supprime. Hein? Bloque. Hein? Une autre façon. Ça veut sortir, là? Bloque ça. Bloque ça. Tu sais que ça vient pas de Dieu. Ça vient directement de l'enfer. Ça vient directement du diable. Peut-être t'as appris ça, t'as hérité ça de la vaine manière de vivre de tes parents, la façon de dealer avec l'offense, avec quelqu'un qui te fait du mal, avec l'injustice. Tu défoules ta colère, hein? Ton mépris, ton indignation, peu importe. Et là, souvent, ou si c'est pas face à face, ça peut être, on se met à faire de la médisance. On fait le tour de la parenté, le tour de l'Église avec nos calomnies ou nos médisances. Alors, la solution pour un enfant de Dieu, est-ce que tu es le genre de personne qui explose? À un moment donné, la colère s'accumule, puis pouf, ça ressort. Et ça détruit tout autour. Ou t'es le genre qui refoule, puis là, il y a comme un nuage. Hein? Puis ça retombe en pluie acide. Ça fait le même effet. Hein? T'as pas péché, t'as pas rien dit. Mais ça dégage une mauvaise odeur, une mauvaise ambiance. Quelle est la solution? Premièrement, on bloque, et ensuite, si quelqu'un nous offense, si quelqu'un nous fait du mal, pardonnez. Hein? Oui, Marc. Oui. Toutes les nuits. Oui. Oui.
Pour gérer la colère,
Oui. C'est. Oui. C'est. Je pense que c'est la base de toute relation. Le couple, la famille, les enfants. Hein? Quoi faire avec ma colère? La première chose à faire avec pour moi, avec ma colère, c'est je suis en colère. Parce que j'ai été élevé que ferme ta gueule pendule. Moi, la colère, c'est un péché. Alors, première chose, c'est hey, je suis en colère. Il y en a d'autres, c'est pas de problème, hein? On va juste vous piler un petit peu sur l'orteil, puis ouh! Ça saute. Hein? Alors, je suis en colère. Et c'est correct. C'est correct, la colère. Dieu est en colère lorsqu'il voit des injustices, lorsqu'il voit des. Et si j'assiste à un viol ou un enfant qui est abusé, si je ne ressens pas de colère, je ne suis pas comme Dieu. Donc, je suis en colère. Maintenant, si je pars avec ça, puis là, je m'en vais régler ma colère comme ma chair le ferait, là, je vais être dans le trouble. Donc, on bloque. Hein? OK, je suis en colère. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la colère? Hein? On fait comme un procès. On dit que cette personne-là avait pas le droit de dire ou de faire ça. Je la déclare coupable devant Dieu. Ça se passe devant Dieu. Pour moi, le pardon, ça se passe devant Dieu. Premièrement, Seigneur, cette personne-là, elle est coupable, sinon je lui pardonne rien. Alors, mais je la déclare coupable. Elle n'a pas le droit de dire ça. Ou peut-être qu'elle avait le droit de le dire, mais elle l'a pas dit de la bonne façon. C'était méchant ou c'était. Alors, faut faire le procès là-dedans. Là. Et déclarer la personne coupable, ça me permet de lui pardonner. Et le pardon, il est aussi profond que la colère et la douleur que je ressens. Si je dis c'est pas grave, j'ai rien pardonné, à moins que ce soit pas grave. Non, je suis en colère. Je suis connecté avec ma colère, avec ma douleur. Et là, je pardonne profondément à la personne. Ensuite, je vais pouvoir aller voir la personne. Puis, c'est plus mon ennemi, c'est plus la vengeance qui me motive, c'est plus de me faire justice qui est moi-même qui me motive. J'ai remis le jugement à Dieu. C'est le bien de la personne. Alors, ça, c'est en résumé, là. C'est qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais, premièrement, on bloque. Explose pas. Hein? Ça vient pas de Dieu, c'est sûr, sûr, sûr. Maintenant, cette colère-là, elle est légitime, tu as jusqu'au coucher du soleil pour la régler. Hein? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Le lendemain, ta colère qui n'est pas réglée, elle se change en amertume, en toutes sortes de mauvaises choses. Alors, il y a combien de soleils qui se sont couchés sur ta colère contre quelqu'un? Et ça finit par dormir mal. Ouais. OK? Alors, c'est sûr que, en principe, un croyant est saint. C'est déjà fait. Hein? Paul nous appelle saint. C'est juste une belle parure, ça, ou bien c'est vrai? Non, c'est ma nature. C'est ma nouvelle nature. Nous sommes saints, justifiés, lavés, purifiés. Tout le kit. Hein? Mais on manque encore de pratique. Dans la pratique, je suis saint, en principe, en vérité, il me reste à pratiquer ce que je suis. Et c'est un processus, on peut, oui, on peut tomber dans un piège, parfois, mais c'est contre ma nature. Qu'est-ce qui arrive à notre corps lorsqu'il attrape un virus? Qu'est-ce qui se passe? Combat, hein? Alors, c'est exactement la même chose pour un croyant qui est tombé dans le péché. il y a un virus et toute son nouveau cœur, sa nouvelle identité est mobilisée pour extraire, déliter. Hey, ce mot-là, il vient pas. Supprimer. Pour supprimer ce virus-là. Tout. Et mobiliser contre ça. Et même dans l'Ancien Testament, psaume de David, heureux celui dont la transgression est telle. C'est quoi le bonheur de savoir que mes péchés sont pardonnés? C'est ça le bonheur. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Quand je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. J'ai des os qui se consument. Nuit et jour, ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. C'est surhumain. C'est pas humain. Ouais. Non. Oui. Ouais, moi, je dirais le désir, la foi. C'est ce que Dieu veut que je fasse. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que je veux être pardonné, moi, pour mes fautes? Ben, je vais te pardonner de la même façon que je pardonne à celui qui m'a offensé. En fond, je n'ai pas le choix, là. Mais c'est sûr qu'un être humain, pardonner, ce n'est pas naturel. On a gardé un petit peu l'image de Dieu, mais ce n'est pas naturel parce que c'est injuste. La personne, elle s'en sort, puis. Hein? Comme ça n'avait rien fait. Mais c'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est la prendre par les deux épaules, là, puis t'es un Seigneur. Toi, tu t'en occupes. Hein? C'est plus œil pour œil, dent pour dent. C'est la grâce de Dieu qui va s'en occuper. Ouais. Une fois qu'on a pardonné, normalement, cette amertume-là ou ce désir de vengeance-là se change en compassion parce que je ne vois plus la personne comme l'ennemi à battre, je vois comme une pauvre personne qui a besoin de pardon. Qui a besoin. Et si elle ne demande pas pardon, on va avoir affaire à Dieu et je ne voudrais pas être à sa place. Alors, ce que je vais faire, c'est lui pardonner, ça va être comme une façon de lui montrer que Dieu pardonne. Oui, Jean-Marc? Alors, le principe est le même. Premièrement, ça se passe entre moi et Dieu. Cette personne-là, ce boulet-là, là, il m'a vraiment fait mal, il m'a poignardé. Hein? Alors, le réflexe naturel, c'est, je reprends le poignard, puis je me venge moi-même. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça doit être pire. Alors, la première chose, ça se passe entre moi et Dieu, Seigneur, cette personne-là. Hein, c'est peut-être un... Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre un esprit méchant qui vient s'attaquer à un chrétien parce qu'il veut l'écraser. Alors, je pardonne de tout mon cœur. Ça a fait mal. J'aurais le goût de l'étriper. Mais au lieu de ça, là, non, je lui pardonne, c'est-à-dire que maintenant, c'est Dieu qui s'en occupe. Ensuite de ça, c'est la réconciliation. Alors, dans ce cas-là, probablement qu'il n'y a pas de réconciliation possible parce que la personne n'a pas de repentir. Ce qui me reste, c'est la loi. Alors, je peux faire cesser l'abus et je dois faire cesser l'abus. Prendre tous les moyens légaux possibles, débarrasser de vengeance, de haine, de, tu sais, en paix. On peut faire ça, en paix. Et si ça fonctionne pas, ben, Dieu est souverain là-dedans. Alors, mais retenons le principe. Premièrement, on peut agir, mais oui, il faut agir. Tu sais, si je connais une personne qui est abusée par une autre personne, si j'agis pas, je suis complice. Et l'Église a son mot à dire là-dedans. Sinon, on devient complice de celui qui maltraite l'autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le Seigneur qui enlève le poignard, puis il guérit. Le pardon, c'est ça. Le pardon, ça guérit. Ça referme la plaie. C'est sûr qu'il y a une cicatrice. On reste avec des souvenirs, on reste avec de la douleur. Mais c'est pas pareil. Ça nous détruit pas. Le poignard nous détruit. Parce que souvent, sur le poignard, quelque chose d'écrit. C'est, regarde, je te fais ça, là. C'est ce que tu vaux. Tu ne vaux pas grand-chose. Alors, je peux te traiter comme ça parce que tu l'as mérité, parce que tu ne vaux pas grand-chose. Et il y a tout un... OK, mais dans le Nouveau Testament, vous connaissez Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour... Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Alors, éliminer l'infection, éliminer le virus. Un enfant de Dieu qui pêche, qu'est-ce qu'il fait? Il reste écrasé, non? Il reçoit le pardon de Dieu, il se relève, puis il dit, je refais plus ça. Ça, c'est digne d'un enfant de Dieu qui a un nouveau cœur. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui est typique. J'ai trouvé un vidéo, ils ont sorti une nouvelle série, je sais pas si c'est télévisé ou quoi, sur la Bible, sur l'histoire de la Bible. Et c'est en anglais, puis faut pas être trop critique parce que il y a bien des affaires qui ne fitent pas dans l'histoire, là, si on lit l'histoire. Mais ça nous donne mon but, c'est vraiment qu'on sorte d'ici là, comme ces personnages-là, ou ce personnage-là. OK? Faith, where is your God? Où est votre foi? Où est votre Dieu? Hein? La différence entre l'armée qui était autour et David, le petit berger. Ouais? OK. Et Goliath qui était géant, plus fort que moi. Si je regarde à ma force, à mes capacités, toute ma vie, j'ai lutté contre ça, puis alors, on regarde à nos forces, hein, et à la puissance de l'adversaire, c'est autre chose. Oui. Même les siens se moquaient de sa foi. Goliath, est-ce qu'il savait qui il avait affaire? Est-ce que Goliath savait qui c'est qui insultait? Non. Mais le pire, c'est pas ça. C'est l'armée du Dieu vivant qui sait pas à qui Goliath a affaire. Et qui est-ce que Goliath insulte? C'est ça qui est le pire. Hein? Et de qui, des deux, entre Goliath et l'armée, de qui est-ce que David est le plus surpris? Il est surpris que l'armée du Dieu vivant se laisse baver par ce géant-là, qui est un infidèle, un impie, un incroyant. Et c'est ça qui l'a motivé. David savait qui était Dieu et David savait qui il était. partie de l'armée du Dieu vivant, même pas au berger, le dernier des soldats. Et c'est avec cette foi-là qu'il est allé affronter Goliath. Puis la fin de l'histoire, c'est Goliath qui est à terre. David qui a le pied dessus, il tranche la tête. Ben mon frère, ma sœur, c'est le sort qui attend ta convoitise à partir de maintenant. D'accord? Qui est ton Dieu? En qui tu crois? Qui est ton Dieu? Alors, t'es prêt avec la pornographie, là? Qu'est-ce que tu vas faire, là, à partir de maintenant? C'est fini pour la vie. OK? Tu touches plus à ça de ta vie. C'est du poison. Ça infecte toute ta vie. Puis ton mariage, puis ta famille. Délite. Ta langue de vipère. Coupe-la, c'est fini. Il y a d'autres façons de régler sa colère. Tu sors d'ici avec l'esprit qui animait David. L'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi et on va l'écraser, cet ennemi-là, par la grâce de Dieu. Ce n'est pas vrai que Dieu va venir se battre à ta place. T'attends un miracle, là? Ben, attends encore 10 ans. Il se battra pas à ta place. Il n'y a pas un... Si David n'était pas allé, là, les Philistins auraient rasé le peuple. Est-ce qu'il y a un David dans quelque part ici? Qui est capable de marcher sur toute la puissance de l'ennemi comme Dieu l'a promis. Hein? David n'était pas une pauvre victime sans défense devant un ennemi invincible. C'est vrai que ses petites pierres dans sa main, ça faisait pas peur aux géants. Hein? Mais il n'avait pris 5 au cas où. Il a tout prévu. Mais si on y va avec la force que nous avons, mais avec la foi que Dieu est avec nous, que nous avons le pouvoir sur cette convoitise-là, ben mes amis, retenons l'image de David qui s'élance vers Goliath, puis qui là-bas, le met à terre, puis marchons dans la victoire cette semaine. Amen. C'est qui, notre Dieu? Hein? Jésus. Qui a la puissance? En qui est-ce qu'on croit? OK, mais que ça paraisse, par la grâce de Dieu. Seigneur, il y a des cœurs ici qui, nouveaux, régénérés, qui t'aiment, Seigneur Dieu, et qui sont encore aux prises avec des choses qui sont plus fortes que lui, qu'elle, Seigneur. Ça n'a pas sa place. Alors, Père Céleste, que on puisse se lever maintenant avec cette assurance, cette confiance, cette passion. Et abattre cette convoitise qui nous tient captifs, liés par le diable, qui nous empêche de goûter à la vie en abondance, qui empêche les fleuves d'eau vive de se déverser. Seigneur, ça c'est l'œuvre du diable et nous la détruisons dans le nom puissant de Jésus. Viens, Seigneur Jésus, remplir le cœur de ton enfant qui est triste, qui est malheureux dans sa déchéance. Il n'y a pas d'affaire là. Alors, Seigneur Dieu, qu'il puisse se relever maintenant. Et ça en est fait, ça en est terminé avec cette convoitise. Oui, Seigneur, viens, Seigneur, te manifester avec puissance. Parce qu'on te prie dans le nom puissant de Jésus qui est présent au milieu de nous. Amen.